pour construire quelque chose de désirable, peut-être une société finalement plus juste, parce qu'elle accepterait un certain nombre de limites et de fonctionnements différents. Voilà. Et donc ça, ça heurte puissamment certains intérêts, certaines à la fois personnes, lobbies, secteurs qui défendent corps et âme leur vision du monde.
C'est intéressant comme les notions de justice et de désir reviennent dans les propos de l'Hortelière. La base même de l'écologie, c'est de désirer un monde plus juste pour tous les êtres vivants. Et c'est peut-être pour ça, dans le fond, que l'écologie fait si peur. Si vous laissez les peuples désirer un monde meilleur, bah c'est très dangereux pour un pouvoir en place. C'est bien pour ça que les puissants sont si friands de nouvelles technologies de contrôle. Contrôle de nos corps, bien sûr, mais aussi de nos désirs. Le déferlement de l'intelligence artificielle démultiplie d'ailleurs ses possibilités de contrôle, tout en servant les visions les plus réactionnaires. Alors où est la poule? Où est l'œuf? Est-ce que le saccage de la planète, les destructions, tout cela reflète un manque de démocratie qui engendre les dérives du pouvoir en place? Faut-il de la démocratie pour un monde vivable ou faut-il un monde vivable pour retrouver un peu de démocratie? Dans Green Backlash, la question est posée de l'urgence démocratique. Urgence, oui, pour éviter la catastrophe. Et oui, les écolos sont des catastrophistes. Mais c'est OK, nous pouvons assumer d'être catastrophistes. D'abord parce qu'il y a vraiment péril en la demeure. Et ensuite parce que, comme l'explique très bien dans le livre Lux et Mal, catastrophisme n'est pas défaitisme ni fatalisme. Au contraire, l'écologie, bah, c'est une réponse, une solution même antifasciste.
Mais en fait, bon, le terme catastrophe, il est à la fois, voilà, on ne se prive pas de l'utiliser parce que quel terme pour dire l'ampleur de ce à quoi on fait face, la gravité de ce qui se profile. Donc, voilà. Mais en même temps, le terme catastrophe, il est un peu trompeur parce qu'il ouvre un imaginaire de comme s'il y avait un moment où la catastrophe va se produire. C'est quelque chose de complètement processuel. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas qu'il va y avoir un grand moment de la catastrophe. Des fois, on a l'impression que si on est lucide sur ce qui nous advient et ce qui risque de nous advenir, alors ça devrait démotiver et donc peut-être il faudrait pas aller jusque-là. Non. Moi, je considère que la lucidité, c'est peut-être la chose qui m'importe le plus dans ma démarche intellectuelle, personnelle, mais aussi professionnelle. Finalement, c'est ça, c'est comprendre le monde, mettre en mots, mettre en analyse ce qui nous arrive. Alors moi, mon domaine, c'est l'histoire, mais je crois que c'est vrai un peu pour tous les scientifiques. Et c'est vrai aussi, je dirais, d'une manière existentielle, quoi. Moi, j'ai envie d'abord de comprendre au plus juste ce qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais, positif ou négatif, etc. Après, on fait avec chacun d'entre nous et on fait avec collectivement. Et puis par rapport à l'écologie, il ne s'agit pas de se dire « Ah bon, mais alors, voilà, c'est très grave, peut-être même la situation est catastrophique. Bon, alors quoi, j'arrête de réfléchir à ça. » Mais c'est complètement le contraire. C'est-à-dire qu'on est dans un combat, dans un engagement qui doit être d'autant plus fort qu'on fait ce constat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à gagner. Au contraire, tout est à gagner. En ce sens qu'il faut empêcher que ce soit pire. Comme disent les climatologues, le moindre dixième de degré compte. Il ne s'agit pas de dire « Ah, on va bientôt franchir les 1,5 degrés dont l'accord de Paris nous avait dit qu'il fallait essayer de ne pas les dépasser. » Bon, c'est pas grave. Si on arrive à 1,6 degré, c'est mieux que si on arrive à 2,3 degrés de réchauffement global, parce que les conséquences sont extrêmement différentes. Donc en fait, une fois qu'on a fait acte de lucidité, ça ne devrait pas empêcher l'engagement, et comme tu le dis, l'engagement... dans une forme éventuellement de joie, de vie, de créativité. Enfin, moi, je ne sais pas. Ce truc-là revient très souvent sur le débat et j'avoue que ça me déroute. Parce que individuellement, on sait que notre existence, elle va très mal se terminer. À la fin, on meurt. Donc, de toute façon, ça, on le sait, c'est sûr. Ça ne nous empêche pas toute notre vie et jusqu'au bout d'essayer d'être joyeux, d'inventer des choses, de faire la fête, de faire des enfants, de vivre des trucs, d'aimer. Donc, je dirais que face à l'enjeu écologique, face à toute situation qui est angoissante, qui est dure, ben, on peut avoir les mêmes réactions. C'est-à-dire, oui, il y a ça, mais on essaye de construire à partir de ça quelque chose qui soit au contraire vivifiant, enthousiasmant, parce qu'il y a un combat à mener, il y a des valeurs, il y a une forme d'idéalisme, et surtout, il y a du collectif. Enfin, nous, à la Técopole, par rapport justement au fait de mariner tout le temps, parce que c'est les questions dont on s'occupe, ces questions qui sont un peu anxiogènes, comme on dit, voilà, et ben c'est parce qu'on a fondé un collectif, qu'on échange sans cesse, qu'on a l'impression de mieux traverser tout ça. Et nous, on est des scientifiques, on a ce collectif scientifique, mais des collectifs, il y en a de plein de sortes. Il y a des associations, il y a des groupes de quartier, il y a des associations de parents d'élèves qui peuvent se saisir de cet enjeu et d'autres. Enfin, voilà, les collectifs, ils s'inventent au quotidien. Des groupes d'amis. Mais en plus, nous, on ne dit pas que le backlash recouvre tout aujourd'hui. On dit qu'il y a des forces de backlash très présentes et qui ont des effets dans beaucoup de domaines qu'il faut apprendre à bien voir pour et justement essayer de pouvoir lutter contre, qui sont en train aussi d'essayer de reconditionner nos discours sur la compréhension de l'enjeu écologique, et il faut être capable de pouvoir mettre ça à distance et au contraire essayer de les contrecarrer. Mais après, on ne dit pas du tout que toute la société serait dans une forme de green backlash. Bien au contraire, parce qu'en fait, quand il y a des études ou des sondages, ça montre plutôt qu'en France, en tout cas, il y a beaucoup de gens, la majorité des gens qui ont conscience de l'enjeu, en tout cas qu'il y a un problème, qu'il faudrait traiter ces questions, qui disent même être prêts à des changements, ou tout ça, à condition que ce soit juste, bien pensé, cohérent, mais en tout cas, qui sont complètement prêts à prendre au sérieux cette question. Donc là, le livre est plutôt sur les forces à l'œuvre pour maltraiter cette question.
Petite blanc dans du poil, sous les bras.
Tout est à gagner, nous dit l'hortelière. Ne pensez pas les écolos tristounés ou grincheux. C'est tout le contraire. Et c'est peut-être un des messages forts à faire passer à celles et ceux qui l'ignorent. L'écologie est joyeuse. Si vous n'avez jamais tenté de lutter pour le vivant, essayez, vous verrez, ça aide à vivre. On peut bien sûr se dire que, depuis Le printemps silencieux, le fameux livre de Rachel Carson qui alertait dans les années 60 sur les dangers des pesticides, rien n'a beaucoup changé et qu'on continue de détruire le vivant. Ok, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein et réaliser la prise de conscience.
Ben oui, nous, à l'échelle du bouquin, enfin, on est souvent dans une réflexion qui retire les choses sur cette échelle de plus de 50 ans maintenant, depuis le début des années 70, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'enracinent dans ce moment-là. Enfin, c'est un moment de cristallisation des enjeux environnementaux et des discours écologiques. Finalement, tels qu'on les conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire la notion même d'environnement se construit à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas la prise en compte d'enjeux environnementaux ou qu'il n'y a pas eu beaucoup plus précocement dans l'histoire des combats même par rapport à des situations environnementales, la nécessité de protéger ceci ou cela, ou des conflits autour des usages de l'environnement. Bon, les historiens ont beaucoup travaillé là-dessus, et au contraire, on peut montrer, puis c'est une histoire qu'on peut faire dans plein de sociétés de civilisations différentes, avec des points de vue situés, des réalités différentes, mais malgré tout, en tout cas, il faut retenir l'idée que toute société a une certaine vision de son environnement, même si elle ne le nomme pas comme ça, et produit des formes de mobilisation autour de cet environnement, et que ça n'a pas attendu les années 70 pour exister. Par contre, il y a, c'est sûr, une sorte de cristallisation, comme je disais, qui opère à ce moment-là, voilà, autour de l'environnement comme une notion globale, autour d'une conscience que il y a des problématiques à l'échelle planétaire, il y a des publications un peu phares, comme le rapport Meadows ou d'autres, qui sortent à ce moment-là. Donc, il y a une manière de publiciser l'enjeu qui pose un certain nombre de cadres du débat qu'on peut retrouver jusqu'à aujourd'hui, même si par ailleurs, bien des choses ont évolué, que par exemple, l'enjeu climatique n'était pas du tout présent de la même manière. Pour les spécialistes, il était déjà sur la table, y compris, comme l'ont montré certains historiens, comme Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Frézos, il était aussi présent au sein des groupes dirigeants, par exemple, des compagnies pétrolières. Mais évidemment, sur la scène publique, c'était pas tout à fait pareil. Voilà. Alors, pourquoi, alors que dès cette époque-là, très précocement, a été formulé assez clairement par des analystes, des activistes, et puis des gens qui se mobilisaient aussi pour essayer d'apporter des solutions concrètes, comme ceux qui ont créé l'agriculture biologique, par exemple, qui étaient à la fois des paysans mobilisés, certains agronomes, des consommateurs qui avaient envie de produits sains et puis de s'articuler au monde paysan. Enfin bon, il y a tous ces cheminements-là dès cette époque-là, et donc pourquoi ces alertes n'ont pas été entendues? Ben là, pour le coup, ça rejoint les questionnements de fond qu'on a dans le bouquin, parce qu'en fait, on n'est pas que dans un monde où il faudrait dire l'enjeu écologique. Il y a aussi plein de mécanismes qui le contrecarrent et qui font tout pour maintenir le business as usual, les trajectoires sur lesquelles on est, pour qu'il n'y ait pas de changement vraiment transformatif qui s'opère.
Et oui, les forces à l'œuvre pour ne rien changer sont puissantes. Il n'est qu'à voir le nombre de lobbyistes embauchés par la société Bayer, 22 salariés à plein temps, 22 personnes qui n'ont manifestement pas bifurqué vers l'écologie. Et en plus de ce travail direct de lobbying, Bayer adhère à une vingtaine d'associations de lobbyistes et à d'autres groupes de pression. Le combat est inégal. Les moyens développés par les industries polluantes sont 15-20 fois supérieurs à ceux des associations qui essaient de protéger le vivant et agissent pour le bien commun et non pas pour le profit de quelques actionnaires. Rien de nouveau sous le soleil, le capitalisme vorace est à l'œuvre et c'est comme ça dans toute l'histoire de l'environnement. Ou l'histoire environnementale d'ailleurs, je ne suis pas sûre de faire la différence entre les deux.
Ben en fait, y a l'histoire de l'environnement, qui est une manière de voir comment les environnements ont pu évoluer dans l'histoire, dans le temps. Mais il y a surtout l'histoire environnementale, en fait, qui est une histoire qui s'intéresse à tout un tas d'objets sous l'angle environnemental. Et là, ça peut être beaucoup plus large, en fait. Parce que bah, ça peut être les représentations de l'environnement, les cultures autour de l'environnement, les lois et les régulations de l'environnement, la manière dont la politique se saisit de l'environnement, etc. etc. En fait, voilà, y a beaucoup de questionnements. Et effectivement, cette histoire-là, en gros, de manière simplifiée, on va dire qu'elle remonte aux années 70. Ça ne veut pas dire qu'avant, il y avait personne qui s'intéressait à des objets d'histoire environnementale. Il y avait des pionniers, des pionnières, des gens qui travaillaient déjà sur certains sujets, les forêts, l'eau, etc. Mais vraiment, comme champ académique, c'est à partir des années 70, avec un démarrage assez fort aux États-Unis sur les campus américains, que ça va se constituer comme un champ du savoir parmi les savoirs historiens. Et c'est intéressant de dire que sur ces campus américains d'abord, au début des années 70, c'est dans une intrication pour certains historiens entre une nouvelle curiosité dans leur recherche historique autour des enjeux environnementaux et la question écologique qui se posait déjà à cette époque-là et qui fait que certains d'entre eux étaient impliqués pour dire que, bah oui, il y avait un problème, qu'il fallait que les sociétés pensent différemment dans le présent leur rapport à l'environnement. Voilà, quelques-uns des grands noms de l'histoire environnementale, des pionniers de l'histoire environnementale à cette époque, étaient aussi des activistes de l'écologie. Et visiblement, bah, ça continue aujourd'hui. Mais voilà, et juste j'ajoute le fait que aujourd'hui, l'histoire environnementale, en fait, elle est en pleine expansion. Il y a plein de chercheurs qui travaillent sur ces enjeux-là, soit en se spécialisant vraiment là-dedans, soit en intégrant ce questionnement-là à leurs recherches, qui peuvent être des recherches dans des domaines classiques de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, de l'histoire politique, mais où ils introduisent le questionnement environnemental et ça renouvelle en fait les différents champs de l'histoire. C'est une logique transformative comme l'est par exemple la question du genre, quand la question du genre, hein, d'abord la question de faire une place aux femmes dans l'histoire, puis aborder les questions, les enjeux historiques sous l'angle des problématiques de genre, voilà, ça s'est glissé un peu partout dans les champs historiques et l'environnement c'est pareil.
La pensée écologique s'est infiltrée dans tous les champs de recherche. Et c'est tant mieux, tout est lié. On ne peut pas dissocier la question écologique de la question de la santé, des inégalités sociales, de l'économie, de l'éducation. Si on veut penser l'écologie, on ne peut pas le faire seul. Il faut pouvoir penser l'écologie à travers tous les champs scientifiques et avec tout le monde. Reste que l'écologie apparaît parfois un peu descendante, méprisante, comme étant urbaine, en rupture avec la ruralité. Alors est-ce que c'est une réalité ou est-ce que, là encore, c'est plutôt ce que certains médias ou politiques essaient de nous faire croire ?
Mais il y a plusieurs choses dans ta question et je commencerai par la première dimension qui est ce qui est nouveau à la Técopole et ce qui a été réussi. D'emblée, en fait, il y a eu vraiment un rapprochement inattendu entre des champs très différents du savoir scientifique. Et à la première réunion, bah, on était quelques-uns ici de cette université, géographe, historien, mais il y avait aussi un physicien de l'INSA, un astronome, enfin voilà, alors qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Mais on s'est réunis sur cette volonté de réfléchir ensemble et de trouver des nouveaux moyens d'agir depuis nos métiers, nos professions et avec ce qu'on pouvait apporter en propre. Voilà, pour nous, c'est quelque chose de très important et qui a été très fructueux et qui continue à l'être. Après, la deuxième partie de ta question sur cet enjeu de dire, bah, voilà, la problématique écologique, elle touche tout le monde aujourd'hui, mais il y en a qui peuvent avoir l'impression que les discours construits à propos sont parisiens ou de bobos ou d'intello ou de citadins, etc. et ne correspondent pas à leur réalité. Alors sur ça, il y a plusieurs choses. Il y a une partie de ces visions qui sont vraiment des constructions publicisés par des médias, par des discours qui visent à dénigrer l'écologie. C'est vraiment, et ça a très bien été démontré. Hein. Même le terme bobo, par exemple, on voit bien qu'il, si on fait des études précises, qu'il apparaît dans le débat social porté par certains partis politiques ou leaders politiques pour en dénigrer d'autres au moment des élections. Enfin voilà. Et aujourd'hui, les woke, c'est exactement pareil. Donc, il y a une partie de ces visions qu'il faudrait vraiment tenter de démonter parce qu'elles sont profondément fausses et avec une stratégie voilà, d'épouvantail. Mais après, il y a par contre des choses qui sont importantes là-dedans. Et aujourd'hui, c'est un enjeu réel que les discours sur la transition écologique, si on veut appeler, enfin prendre ce terme-là, soient construits aussi depuis des réalités sociales de terrain, incarné avec des réalités sociales fortes en termes de contraintes économiques, secteurs d'activité menacés ou transformés potentiellement par des politiques de transition, avec une vision, on l'a souvent dit, mais par exemple la problématique de la mobilité et des transformations des mobilités ou de l'électrification du parc automobile se pose pas du tout de la même manière dans des villes, des agglomérations, du périurbain ou dans des campagnes plus isolées. Donc tout ça, c'est en effet extrêmement important. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir les deux visions. Certains discours de ce type, il ne faut pas les accepter parce que c'est vraiment des formes de mensonges ou de désinformations qui sont fabriquées pour qu'on ne comprenne plus les enjeux et pour créer des clivages complètement dommages en fait, au service de certains intérêts qui se masquent derrière. Et par ailleurs, oui, disons, les questionnements autour de comment on pourrait faire face à la question écologique, comment on pourrait opérer une transition écologique, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre et tout, doivent être construits en faisant beaucoup plus de place aux citoyens dans leur diversité, aux citoyennes, aux secteurs d'activité, aux... voilà.
L'écologie doit faire une place à chacun et à chacune, et l'hortelière a raison de pointer la nécessité de faire dans la nuance. On ne peut pas dire que l'écologie est punitive, c'est même l'inverse, elle ne l'est probablement pas assez à mon sens. Pour autant, il faut comprendre pourquoi. Dire qu'il faudrait par exemple moins de voitures, ça peut paraître pour certains liberticide, moraliste, injuste. Tout le monde n'a pas les moyens de renoncer à certains conforts. Et l'écologie doit toujours être pensée pour accompagner les plus vulnérables. L'écologie ne doit pas paraître normative, culpabilisante ou déconnectée, alors même qu'elle est une puissance mobilisatrice. Mais les débats sont sclérosés et tout est la faute aux écolos, c'est le grand n'importe quoi.
Ça, c'est un des trucs les plus dommageables aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans une société où la construction du débat public se dégrade. Je pense pas qu'elle ait jamais été parfaite, mais en tout cas, elle devient très mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a quand même de puissants acteurs médiatiques, des figures de proue. Il y a le phénomène aussi des réseaux sociaux dans une certaine négativité qu'il a installée, qui construit des logiques de clash, de buzz sur des connes. Enfin, il y a tout un tas de choses, de mécanismes et d'acteurs cyniques ou d'acteurs hyper idéologiques. Hein. Bon, voilà, la sphère Bolloré, ces gens qui ont une vision très réactionnaire de la société et qui en profitent pour noyer le débat social sous des tombereaux à la fois de conneries, d'insultes. Et ça, c'est compliqué. Ça rend compliqué le fait de réfléchir sereinement sur des enjeux forts. Même si on a des visions différentes, parce que c'est logique, dans une société, il y a des visions différentes, des intérêts différents, des compréhensions différentes, mais on peut se dire qu'avec un débat public de qualité, il y a des choses qui pourraient converger. Ou en tout cas, on pourrait essayer de trouver des solutions, voilà, les meilleures solutions possibles, alors qu'il y a des enjeux différents, bon, ou des visions différentes. Mais pour l'instant, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Y compris, effectivement, et là on retombe à ta toute première question, même la parole des scientifiques devient dénigrée comme si c'était une parole d'opinion comme une autre. Or, les scientifiques ne sont pas là pour surplomber la société avec leur savoir, non. Mais leur savoir, ils sont importants pour qu'ensuite, en les amenant dans le débat, le débat puisse avoir lieu avec quelques informations bien construite. Et ensuite, le débat, il a lieu. Et là, les scientifiques sont un des acteurs du débat parmi les autres. Ça, c'est vraiment notre vision à la Técopole, quoi. Pour bien différencier le fait que, oui, les scientifiques ont quelque chose en propre à amener, et ça devrait être respecté, parce que c'est important. Mais après, ils ne sont qu'un des maillons du débat. Et le débat doit avoir lieu, et là, il est complexe, il est polémique, c'est normal.
Oui au débat, trois fois oui, mais non à celles et ceux qui mélangent science et croyances, qui instillent le doute partout, ou qui utilisent de soi-disant consensus scientifique pour, je cite, « imposer une vérité unique et disqualifier toute contestation ». C'est ce que font les régimes politiques autoritaires. Et on voit bien la pente glissante sur laquelle on se trouve en France avec un gouvernement qui réprime de plus en plus toute contestation des écologistes qui sont accusés par Macron lui-même d'être contre le progrès, d'être des amiches. Et là, on aurait besoin d'une heure de plus pour savoir ce qu'est le progrès. On n'arrête pas le progrès, me dites-vous. Eh bien si, en fait, le progrès, ce n'est pas un processus linéaire. C'est quelque chose d'ambivalent, de pluriel et arrêté parfois. Alors après, est-ce que par progrès, Macron entend, lui, le technosolutionnisme ? En attendant, Macron participe, comme d'autres, à disqualifier les savoirs, empêchant ainsi qu'ils deviennent des leviers d'émancipation. Aujourd'hui, les conditions de vie sur Terre sont menacées et il faudrait un projet politique à la hauteur. Et à la place, on a quoi ? On a des propositions, comme la loi Duplon et ses structures d'élevage, ses méga-bassines, ses réglementations phytosanitaires revues à la baisse. Donc sous couvert de progrès, on marche à reculons de l'histoire. Et sans transition, j'ai envie de vous dire, et les poils dans tout ça ?
Bon, la question du poil... Personnellement, moi, ça me renvoie à mes cheveux, donc j'ai toujours eu une chevelure assez abondante et assez, pas trop peignée, quoi. En fait, qui a sa propre vie. Et bon, c'est un rapport broussailleux à mes poils, quoi. Voilà, mes cheveux sont là et ils sont pas très maîtrisés, en fait. Donc ça me constitue en partie.
J'aime bien cette idée de ne pas maîtriser ses cheveux. Vive le désordre, qu'il soit capillaire ou autre. J'espère que cette émission vous aura donné l'envie, si ce n'est de bifurquer, en tout cas de faire attention aux discours attaquant l'écologie et les écolos. Discours souvent mensongers, fabriqués pour servir des intérêts bien loin de l'intérêt général. Prudence donc, car comme le dit Andreas Malm, cité dans Green Backlash, pire que la catastrophe climatique, c'est la catastrophe climatique et... le fascisme. Alors face au danger, à la barbarie, soyons audacieux, soyons créatifs, soyons ensemble surtout. C'est ça l'écologie, c'est être ensemble pour proposer une alternative au capitalisme et ainsi peut-être construire une société durable. C'est tout ce que je nous souhaite et c'est déjà pas mal. Allez, du poil sous les bras, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve très vite sur les ondes FM. Et d'ici là, toutes les émissions sont à écouter ou à télécharger en ligne. Et n'oubliez pas de soutenir vos radios associatives locales qui ont la vie dure en ce moment particulièrement, comme la plupart des associations.
Tratador, mas... ando fazer sem para ela.